Alban Euzel, Virginie Boisdoux, bonjour.
Bonjour.
Vous menez la liste soutenue par le Rassemblement National et l'UDR. La liste s'appelle Rassemblement pour Arras. C'est Rassemblement pour Arras ou le bon sens à Arras finalement ?
Alors, la liste, c'est le nom, c'est Rassemblement pour Arras, mais le bon sens, c'est notre slogan.
Vous avez 45 ans, mais c'est déjà votre troisième candidature au municipal à Arras. Vous avez été candidat aux législatives, vous êtes actuellement conseiller régional. Dans l'édito de votre programme, vous vous présentez comme quelqu'un d'engagé dans la vie associative arageoise. Est-ce que vous pourriez nous dire de quels assos vous avez fait partie exactement ?
Alors, c'était au début, il y a plus de 10 ans, c'était quand, avant que je m'engage en politique, j'étais engagé dans des associations au niveau local, et donc qu'elles soient caritatives ou même culturelles. J'ai été également au théâtre d'Arras, mais évidemment j'ai mis ça de côté quand je me suis engagé en 2014.
Virginia Boisdoux, c'est ça ? On ne vous connaît pas, vous ? Alors, vous, qui êtes-vous en quelques mots ? Nouvelle en politique ?
Nouvelle en politique, un engagement syndical depuis plus de 8 ans par contre. Donc la cause du collectif me tient à cœur. Mais effectivement, c'est un premier engagement en politique, oui.
Je reviens sur votre édito, vous l'avez répété plusieurs fois, vous voulez, je cite, « préserver Arras des dérives idéologiques observées dans certaines métropoles comme Lille, Nantes ou Grenoble ». Quand on a lu ça, on doit vous avouer qu'on n'a pas très bien compris de quoi vous parlez exactement.
Dans ces villes-là, les gens le disent eux-mêmes, de toute façon on voit dans les études d'opinion et également quand on va sur place, c'est les problèmes de sécurité, et de propreté, et ça c'est ce qu'on veut... Éviter Arras. On veut qu'Arras demeure une ville paisible de province et ne devienne pas un coupe-gorge. Il y a certains quartiers, malheureusement, à Rennes, à Nantes, où les riverains sont mécontents de la situation, à juste titre. Même à Lille, il y a des problèmes de sécurité. Et donc, la campagne, je ne vais pas faire la campagne municipale à Lille, mais vous voyez les débats, on voit bien que c'est un sujet récurrent dans ces villes-là.
Mais dérive idéologique, c'est autre chose quand même, c'est pas juste une question de sécurité, non ?
Dérive idéologique, c'est que c'est, je pense au laxisme. On laisse les choses faire, on refuse de donner des moyens à la police municipale. Dans certaines villes, on refuse de les armer. Nous, à Arras, la police municipale est armée, mais on a bataillé pendant des années pour ça. Nous, on demandait l'armement de la police municipale depuis 2014. C'est chose faite depuis 2021, tant mieux. Mais voilà, c'est tout un ensemble, c'est une volonté politique de s'intéresser aux questions de sécurité qui intéressent les habitants.
Puisqu'on parle de dérive, vous avez publié sur vos réseaux sociaux le portrait bleu-blanc-rouge de Quentin Derenck, assassiné certes, mais qui était quand même un militant au sein d'un groupuscule néofasciste. C'était obligatoire de publier ce portrait ?
Néofasciste, non, c'était pas un néofasciste, c'est quelqu'un à droite nationale. Patriote, et je trouve que c'est déplacé de dire que c'est un néo-fasciste, surtout en sa mémoire, par rapport à sa famille, je trouve que c'est déplacé de dire ça.
Il était quand même dans un groupe néo-fasciste du côté de l'Isère, et en plus, à la suite de son décès, il y a eu quand même une manifestation clairement néo-fasciste dans les rues de Lyon, non ?
C'était pas un néo-fasciste, et c'est pas parce qu'on se dit face à lui et on fait une manifestation antifasciste que ce sont forcément des gens bien. L'antifasciste, pour moi... ceux qui s'appellent antifascistes aujourd'hui sont des gens violents. Il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas Quentin Derenck qui a tué quelqu'un. Il a été tué par l'extrême gauche. C'est ça, ce sont les faits. C'est la vérité. Lui, c'était Quentin Derenck, c'était un catholique qui faisait des maraudes, qui était bienveillant, qui agissait auprès de sa paroisse, qui avait une idée de la France, avec ses racines chrétiennes. Mais voilà, il était investi dans la paroisse, de sa paroisse. Et en aucun cas, je le considère comme un néo-fasciste. Et je trouve ça déplacé de l'affubler ce qualificatif, je vous le dis franchement. En sa mémoire et par rapport à ses parents, lui qui a quand même fait, grâce à lui, ses parents se sont convertis au catholicisme. Ils se sont investis dans la paroisse pour aider leurs prochains. Et donc voilà, je trouve ça incroyable qu'on essaie de le salir en traitant de néo-fasciste, alors que lui c'est une réelle victime, il a été tué pour ses idées, et ça ne devrait pas être le cas aujourd'hui en France.
Parmi les enjeux majeurs de ces élections, il y a aussi l'abbaye Saint-Va. Pour que ce soit bien clair pour nous, vous êtes pour le projet de luxe, d'hôtel de luxe ?
Nous, on a une conception réaliste et pragmatique des choses. C'est-à-dire que l'abbaye Saint-Va, il est nécessaire de la restaurer. Alors ça a dû être fait déjà il y a 20 ans, ça c'est un autre souci, mais c'est vrai qu'on a beaucoup trop attendu. Maintenant, on est dans l'urgence, il faut vraiment restaurer, et la ville d'Arras ne peut pas faire tout seul, c'est pas possible. Et donc, étant pragmatique, nous on est favorable à ce qu'on travaille avec le privé, un partenariat public-privé. Et donc, il y a des milliers de mètres carrés de locaux inoccupés, il faut bien les occuper. Avant, il y avait des administrations des années 70-80 qui occupaient une partie de l'abbaye Saint-Va. Bah, aujourd'hui, qu'on travaille avec un groupe privé qui peut amener une activité supplémentaire sur Arras, nous, on y est favorable, il faut être pragmatique. Voilà, on ne va pas recréer une abbaye avec des moines.
C'est quand même un coût important, puis c'est une forme de privatisation de cet espace, non ?
Non, parce que il y a une partie qui sera toujours accessible au public. Évidemment, la partie de l'hôtel, forcément, ça sera privé. Mais de toute façon, il n'y a pas financièrement, on est obligé de travailler avec le privé. La ville d'Arras ne peut pas faire tout seul. Et je vous dis franchement, voilà, moi je suis dans l'opposition, je suis constructif. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens, selon moi, je le dis. Quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, je le dis aussi. Je l'ai dit en conseil municipal. À plusieurs reprises, j'estime toutes que la ville d'Arras n'avait pas 36 solutions, donc c'est le moins pire. Voilà. Après, s'il y en a qui ont d'autres propositions, qu'ils le fassent, mais là, actuellement, il faut avoir une approche réaliste. Et donc, je ne vais pas critiquer la ville d'Arras et le maire actuel pour dire de critiquer. Voilà, quand je reconnais qu'il fait quelque chose de réaliste, je le dis.
Alors, on va parler des impôts, peut-être ? Vous parlez de baisser la fiscalité pour inciter l'installation de nouveaux habitants à Arras. Est-ce que le problème, c'est vraiment la fiscalité ? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un accompagnement à apporter sur les rénovations des passoires thermiques, l'insalubrité, aller vers des prix de l'immobilier abordables ?
Ouais, c'est pas incompatible, hein, mais c'est tout un ensemble. Il y a la question du pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, voilà, ils ont vu la pression fiscale augmenter, puisque... pour expliquer, même si les taux d'imposition n'ont pas augmenté, les bases ont augmenté. Donc mécaniquement, la pression fiscale augmente. Et donc de toute façon, il suffit, dans notre programme, on a cité un exemple, hein. Chacun regarde sa fiche de paie par rapport à il y a 5 ans, il verra qu'il paye plus en taxes foncières à cause de l'évolution des bases. Et quand on sait qu'il y a des familles qui sont à 20 ou 30 euros près à la fin du mois, on peut faire un effort. Quand on est propriétaire, on n'est pas forcément riche. On peut être un petit propriétaire avec un petit appartement, une petite maison. Et donc, baisser les taux d'imposition, c'est un moyen aussi de donner du pouvoir d'achat. Et encore une fois, on ne dit pas ça par démagogie. Hein, c'est qu'on a le budget, c'est faisable, puisque les finances sont correctes à Arras, il faut l'admettre. Hein, on a les capacités financières pour faire un geste au niveau de la taxe foncière. Après, ça n'empêche pas d'aider, et ça, c'est notre projet également, d'aider les gens à rénover leur logement pour la rénovation énergétique. Ça a commencé déjà avec la communauté urbaine, avec la maison de l'habitant. Mais on a déjà toujours dit durant le mandat que la ville d'Arras devait accompagner ces projets et que ça devait être une priorité pour la ville d'Arras d'accompagner les familles à rénover leur logement concernant la rénovation énergétique.
Alors, autre sujet, le réaménagement de la Grand Place d'Arras. Alors, bon, vous, la piétonnisation, c'est pas trop votre truc, non ?
Mais je ne suis pas contre la piétonnisation de la Grand Place, mais à condition de prévoir les stationnements. Donc il faut revoir forcément le parking souterrain de la Grand Place et puis créer des stationnements en ville. Le problème, c'est que, et c'est une critique récurrente, c'est que quand la majorité rénove des rues, c'est toujours pour enlever des places de stationnement. Et donc, voilà, savoir si on veut qu'on ait un centre-ville qui vive avec des commerces qui puissent avoir des clients qui viennent faire leurs achats dans leur chez eux, il faut permettre aux gens de pouvoir accéder au centre-ville. Pour cela, on est favorable au stationnement gratuit et aux zones bleues. Zones bleues limitées un temps limité sont les secteurs, 20 minutes, 1h30 ou 24 heures. Mais il faut faciliter les choses. Il ne faut pas que quand on veut faire des courses en ville, s'approcher avec sa voiture, il ne faut pas que ce soit le parcours du combattant. Donc déjà, il faut revoir aussi la politique de la fluidité du trafic et créer des places de stationnement. Maintenant, moi, je ne suis pas contre la piétonnisation sur la Grand Place, vu que c'est un monument historique. Arras, c'est la ville où il y a plus de monuments historiques, parce que chaque maison est un monument historique en lui-même. Donc il faut préserver ça, et il y a des choses à aménager sur la Grand Place. Je suis d'accord, mais il faut vraiment être réaliste également et prévoir des places de stationnement aux alentours.
Bon, créer des places de stationnement, vous êtes quand même pro-bagnole, il y a aussi le transport en commun, le vélo n'est même pas cité dans votre programme. Vous, vous êtes conseiller régional, Hauts-de-France, commission environnement, la qualité de l'air, les rejets de gaz à effet de serre, vous devriez quand même être un petit peu au courant quand même, non ?
Écoutez, les automobilistes, c'est pas le diable, hein. Vous savez, quand on vient avec sa voiture, dans la voiture, il y a des gens, il y a des familles, souvent des familles avec enfants, ils viennent faire leurs courses. Quand on va faire ses courses, on a plusieurs paquets, on a des enfants, on va pas forcément tout prendre sur son vélo. Hein. Faut essayer d'être réaliste. Il y en a qui ont besoin de leur voiture, même pour aller travailler. On n'est pas non plus dans les grandes agglomérations avec le métro. Et voilà, on a besoin de sa voiture. Arras, il reste une ville de province avec des communes autour d'Arras. Et sans voiture, les gens sont pénalisés. Il faut penser à eux. Voilà, faut pas faire une politique anti-voiture.
Beaucoup de propositions sur le thème de la sécurité, pas de surprise. Dans votre programme, il est question de développer la vidéoprotection, la vidéosurveillance un petit peu, quoi, et de se faire aider par l'intelligence artificielle.
Oui, bah, de toute façon, on est tous obligés d'y passer. Hein. L'intelligence artificielle existe, on ne va pas faire sans. Mais c'est vrai que la vidéoprotection, l'avantage, c'est que ça peut dissuader certains délits, et puis ça peut aussi permettre de résoudre des enquêtes. Avec l'intelligence artificielle. Et puis, peut-être que Virginia pourra dire un mot, mais c'est vrai qu'il y a des femmes... Quand on est une femme seule le soir, quand on vient de la gare d'Arras, on n'est pas forcément en sécurité. On ne se sent pas forcément en sécurité. Et donc, c'est bien aussi qu'il y ait déjà la présence policière, mais également qu'il y ait des caméras de vidéoprotection pour rassurer aussi les personnes seules et les femmes qui sont amenées à circuler à pied à Arras le soir.
Virginia Boisdoux.
Oui, pour corroborer les propos d'Alban, effectivement, moi je constate depuis très peu de temps, en 2 ans, une recrudescence d'une forme d'insécurité qui s'installe à Arras que je ne voyais pas en arrivant dans cette ville en fait. Je prends régulièrement le train pour aller à Paris et force est de constater que oui... tard le soir, l'hiver, quand il fait un petit peu plus noir, on nous a remonté. Hein. Alors moi, j'en ai été la victime, Dieu merci, sans trop de dommages. Mais je sais que pour d'autres personnes, oui, ça a été beaucoup plus problématique. Oui.
Alban Ezel, à chaque fois qu'on vous reçoit, donc pour les élections, vous nous dites, mais non, le RN n'est pas un parti raciste. Mais là encore, dans votre programme, sur le thème sécurité, vous nous dites, donc je cite, « Nous refuserons l'immigration massive et incontrôlée ». Alors, c'est quoi le rapport entre insécurité et migrants ? Est-ce que c'est pas un peu xénophobe, Alban Ezel ?
Déjà, je vois pas en quoi c'est raciste et en quoi c'est xénophobe.
C'est quoi votre lien entre l'insécurité et les migrants ?
Bah,
c'est quoi ?
On sait bien qu'il y a... Bah, ça, c'est aussi le ministère de l'Intérieur qui le démontre par les chiffres. C'est que, malheureusement, il y a une part importante dans l'immigration clandestine, il y a une part importante de personnes qui commettent des délits. Et donc, et on le voit bien dans la délinquance dans les villes, notamment à Paris, où une part importante des délits commis sur la voie publique sont commis par malheureusement des clandestins. Donc ça, c'est aussi un sujet à traiter, forcément. Quand des clandestins arrivent à Calais, qui font une halte à Arras, etc., par définition, clandestins, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas. Il y a des gens bien, mais il faut avoir des gens qui ne sont pas forcément bien, il ne faut pas être naïf. On ne sait pas d'où ils viennent, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur pays. Et donc, c'est normal de contrôler et c'est une demande, de toute façon, des habitants. C'est qu'on n'a pas forcé les habitants à accueillir des personnes. Qui n'ont pas souhaité. Là, ce que je parlais par rapport au programme, c'est par rapport au pacte de migration, où c'est Bruxelles qui souhaite imposer une répartition obligatoire des migrants dans les villes françaises. Bon, je suis désolé, les Français ne le souhaitent pas. Et donc, nous, ce qu'on nous disons, nous, on reste dans la légalité, c'est simplement que nous, on prendra tous les recours possibles si on est aux responsabilités. Pour empêcher à ce qu'on nous impose, par exemple, la présence de migrants qui seraient imposés, par exemple, par l'État, suite aux recommandations de Bruxelles. On fera les recours pour, on fera les pétitions, mais on ne se laissera pas faire. On doit respecter la volonté du peuple. Et c'est pour ça que, de toute façon, sur l'immigration, nous réclamons un référendum. Mais ça, c'est une question au niveau national qui se tranchera l'année prochaine à la présidentielle. Et c'est pour ça qu'on encourage aussi nos électeurs à venir voter, parce que les municipales, c'est la première étape. C'est la première étape pour la présidentielle qui aura lieu l'année prochaine.
Alors, sur le même thème, vous êtes opposé à la convention de partenariat entre la ville d'Arras et l'asso France Terre d'Asile. C'est une asso qui aide des mineurs non accompagnés. Pourquoi cette opposition ? C'est vraiment un danger, une association de gauchistes, France Terre d'Asile ?
Mais c'est la même idée que j'ai développée juste avant. C'est que ce sont des associations immigrationnistes qui ont pris position avec Najat Vallaud-Belkacem en estimant que l'immigration rapportait 30 milliards par an à la France, rien que ça. Donc voilà, c'est très politisé. Et encore une fois, nous, ce n'est pas notre conception. Normalement, quand on vient en France, il faut qu'on respecte les règles. On ne vient pas comme ça illégalement. On ne viole pas la loi française, on ne viole pas la frontière. Donc quand on vient illégalement, eh bien, on est renvoyé. C'est comme ça, c'est tout simple. Quand je reçois quelqu'un chez moi, il est invité. Si
je l'ai pas. Il y a des gens qui fuient les guerres, des situations compliquées aussi.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, dans les migrations qu'on parlait, il y a beaucoup, par exemple, qui venaient d'Albanie. L'Albanie, c'est pas un pays en guerre. Ceux qui viennent de l'Algérie, du Maroc, c'est pas des pays en guerre. Bon, donc faut pas être naïf.
Dans votre programme aussi, on retrouve des éléments, serres pédagogiques, jardins potagers partagés, alternatives au désherbage chimique, plus de bio dans les cantines, bien-être et respect animal. C'est le Rassemblement National ou les écolos ?
Non, mais c'est un sujet qu'on porte depuis déjà de nombreuses années. Et ce sont des sujets aussi qui nous sont remontés par les habitants qu'on a rencontrés ces derniers mois également, notamment par rapport au bien-être animal. On souhaite créer un cimetière pour animaux, mais peut-être que Virginia peut dire un mot sur ce sujet-là.
Oui, on s'est vraiment inspiré des rencontres, des belles rencontres qu'on a pu faire d'ailleurs à ce sujet. Cette volonté d'inscrire le bien-être animal au cœur de cette campagne municipale, c'est pas pour se différencier, c'est qu'on n'en parle pas assez, on n'éduque pas assez et on n'offre pas aux propriétaires d'animaux l'occasion d'émettre encore plus responsables. Au-delà, cette histoire de cimetière des animaux, en fait, finalement, elle fait référence au deuil dont nous parlons aussi dans notre programme. Encore une fois, ce sont des sujets qu'on met un petit peu sous le tapis, comme s'ils étaient honteux, alors qu'en fait, la meilleure des thérapies, c'est de parler des gens qu'on aimait, et l'animal en fait partie.
Puis aussi, par rapport au bien-être animal, on veut aussi créer une journée des animaux pour sensibiliser aussi les gens à la queue d'un animal, au cou d'un animal. Et si on est aux responsabilités, on créera aussi un poste de délégué au bien-être animal. Il y aura un service vraiment dédié à ça, à la protection des animaux, à la mairie d'Arras, pour s'occuper des animaux maltraités, les animaux, voilà, les chats errants.
Des programmes de stérilisation aussi qui ne sont pas assez connus, les chats errants notamment. Voilà. Mais oui, au-delà aussi, pourquoi pas, il existe énormément de métiers autour des animaux et pourquoi pas éveiller ou réveiller des vocations. On introduit l'animal dans des cercles comme des personnes âgées, etc., comme outil, je n'aime pas dire outil parce que je considère l'animal comme un être vivant et pas comme un objet, même s'il continue à l'être. Et c'est aussi un moyen, pourquoi pas, d'éveiller ou de réveiller des passions autour de l'animal.
Alors sur la thématique environnement, donc une dizaine de pages dans votre programme, il y a quand même 14 lignes sur les mauvaises herbes. C'est pas un peu beaucoup, quoi ? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être envahi ?
Ce sont les remontées des habitants. C'est que beaucoup d'habitants disent qu'on peut faire beaucoup mieux pour la propreté de la ville. Quand on voit des trottoirs avec des mauvaises herbes dans tous les sens, non, c'est pas digne d'une ville-préfecture. Donc il y a des villes autour d'Arras où c'est nettoyé, il y a du désherbage thermique, c'est possible. Alors après, je sais que les employés municipaux font le maximum. Après, c'est une question de volonté politique et d'organisation. Mais je pense qu'il faut, vous n'avez qu'à aller à côté d'Arras, vous verrez qu'il y a des villes où les trottoirs sont nickel, et c'est propre, il n'y a pas de papier gras, de crottes de chien ou de mauvaises herbes qui restent pendant plusieurs mois. C'est de volonté, quand on paye des impôts, c'est pour aussi avoir un espace public propre.
Dans votre programme, est-ce qu'il y a un ou deux points sur lesquels vous souhaiteriez insister ? La santé peut-être ou autre ?
Ah oui, la santé tout à fait, parce que ça c'est aussi une remontée du terrain. C'est le problème de l'offre médicale. Ça, beaucoup de personnes sont inquiètes parce qu'elles n'ont plus de médecins. Des médecins partent en retraite et ne sont pas remplacés. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite créer des maisons de santé, alors notamment Arras Ouest et Arras Sud, pour que les médecins généralistes ou spécialistes puissent mutualiser leurs coûts. On souhaite aussi travailler avec les facultés européennes de médecine, puisqu'on a beaucoup d'étudiants français qui étudient à l'étranger dans les facs européennes. Et on voudrait aussi les inciter à revenir, c'est-à-dire en contrepartie aussi un engagement où on paye une partie de leur cursus et en échange, ils viendraient exercer quelques années sur Arras. Mais ça, c'est un sujet important que les pouvoirs publics auraient dû s'emparer plus tôt, puisque c'est un sujet qui commence vraiment à préoccuper beaucoup de monde. Dans notre entourage, on a tous des personnes qui, malheureusement, n'ont plus de médecin.
On va parler un peu d'histoire. Alban Ezel, je sais que vous avez écouté l'interview qu'on a faite avec les amis de Robespierre, hein, qui ont réagi à vos propositions. En gros, vous ne voulez pas de la maison Robespierre. Vous souhaitez plutôt mettre en valeur un autre Arrajois contre-révolutionnaire, Alexandre Gonce de Rougeville. Ça s'ajoute aussi à votre publication sur vos réseaux de l'hommage à Louis XVI, hein, le jour de l'anniversaire de sa mort.
Oui, alors c'est pas tout à fait ça. C'est que moi, je suis pas pour nier les personnages historiques. Je suis pas un wokiste. Je suis pas pour déboulonner les statues. Donc, il s'agit pas de supprimer Robespierre. Robespierre, on continuera à en parler dans cet espace-là, dans cette maison-là. Simplement, c'est que je souhaite pas qu'il soit la tête de gondole, si vous voulez, qu'il soit mis en avant, que ce soit un espace, un musée glorifié à Robespierre. Il y a d'autres personnes contemporaines de son époque. Alors, il y a Alexandre Gonce de Rougeville. Mais il y a d'autres personnes qu'on peut parler, hein. Il y a Vidocq, vous connaissez. Et moi, je voudrais que ce soit un espace, quand on parle de l'époque de la Révolution et de la Terreur, qu'on mette à l'honneur les victimes de la Terreur.
Les royalistes.
Mais il y a aussi beaucoup d'anonymes, des gens qui ont été guillotinés injustement, place du théâtre, toute catégorie sociale. Enfin, il y avait des domestiques qui ont été guillotinés. Place du théâtre parce qu'on est soupçonné d'avoir des accointances avec d'autres personnes, des émigrés d'Angleterre, etc. C'était la loi des suspects qui a été validée par Robespierre. C'était la fin de la justice telle qu'on connaît aujourd'hui. On pouvait accuser son voisin de n'importe quoi. Le voisin était dans les 24 heures condamné à mort. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont vécu à cette époque-là qui ont été vraiment injustement traité. Il y en a qui sont passés à l'échafaud. Moi, je voudrais vraiment que ce soit un espace dédié à elles, à ces personnes-là. On continuera à parler de Robespierre dans cet espace, mais que ce ne sera pas un musée à la gloire de Robespierre. On parlera des victimes de la Terreur. On parlera de personnes comme le chevalier de Maison Rouge. On parlera de Vidocq. On parlera de cette période révolutionnaire, mais pas uniquement en parlant de Robespierre. Et encore une fois, je laisse ça aux historiens. Je ne suis pas historien, j'aime bien l'histoire, je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là, mais ce n'est pas mon métier. Il y a différents historiens, vous avez interrogé un historien il y a quelques jours sur ce sujet, très bien, mais tout le monde n'a pas le même avis. Il y a des historiens qui n'ont pas la même vision de Robespierre que celui que vous avez interrogé. D'ailleurs, l'historien que vous avez interrogé, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait d'accord sur le génocide vendéen. D'autres historiens le reconnaissent. Donc c'est pour ça, moi je veux faire qu'il y ait un travail d'historien et qu'on retrouve aussi les personnes, les malheureux qui ont été guillotinés place du théâtre à Arras. Après, vous direz peut-être que j'ai aussi une acquaintance personnelle parce que j'ai l'un de mes aïeux qui a été guillotiné à l'époque du théâtre. Donc peut-être pour ça. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont vécu à Arras. Je crois qu'il y a entre 300 près de 500 personnes qui ont dit que guillotiné place du théâtre. Bah, moi, je pense que ça mérite un espace dédié à ça.
Vous en avez parlé un petit peu sur le point sécurité. Vous n'avez pas été sollicité par le collectif féministe arrajois dans le cadre de leur proposition pour un engagement pour l'égalité femmes-hommes à Arras. L'UDR et le RN, ce ne sont quand même de pas très bons élèves, hein, sur cette question au regard des votes à l'Assemblée. Qu'en est-il de vos engagements à l'échelle municipale ?
On peut dire ça alors que notre candidate à la présidentielle, c'est une femme. Donc on a beaucoup
c'est pas la femme la plus féministe de France. Hein.
Ah bon, écoutez, alors je sais pas ce que c'est parce que être féministe, parce que elle est pour le droit des femmes, elle est, nous sommes pour le mérite, voilà. Quels que soient les sexes, on n'est pas dans les cases, voilà. Quelles que soient nos origines ou notre orientation sexuelle, c'est pas le problème. On fait au mérite. On regarde pas le sexe des gens. C'est pas. Maintenant, Marine Le Pen, c'est une femme. Nous avons beaucoup d'élus femmes. Virginie est à mes côtés. Voilà, c'est pas parce qu'on se dit féministe qu'on a le monopole du féminisme. Hein, je suis désolé. Hein, il y a beaucoup de il y a des féministes de droite aussi. Hein, c'est pas parce que le collectif que vous m'avez cité, c'est un collectif peut-être de gauche hein, ou d'extrême gauche, je sais pas. Mais voilà, personne n'a le monopole du féminisme. Hein, moi, je suis aussi pour le droit des femmes. Moi, j'ai deux filles. Je veux qu'elles puissent vraiment vivre dans un pays où on est dans la sécurité, qu'elles puissent vivre un beau cadre de vie, qu'elles aient une belle vie. Que quand elles rencontreront un homme qu'elles pourront épouser, que cet homme les respecte et qu'elles soient autonomes, indépendantes. Voilà, je veux le meilleur pour mes deux filles hein, aussi. Voilà.